Je suis maître de conférence en histoire contemporaine au Centre universitaire Champollion d'Albi et j'appartiens au laboratoire Framespa, qui est un laboratoire mixte Université du Mirail CNRS. Et donc je travaille sur l'histoire des universités et en particulier sur les relations internationales des universités. Donc j'ai beaucoup passé de temps dans les archives sur l'histoire des étudiants étrangers de Toulouse qui nous intéresse aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut éclaircir ou définir d'une manière plus précise ce qu'on englobe dans ce mot d'étranger?
Un étudiant étranger, pour moi, c'est un étudiant qui n'a pas la nationalité française ou qui vient de l'empire colonial. On parle alors d'étudiants coloniaux, étant entendu que parmi ceux qu'on appelle les coloniaux, il y a deux catégories, les Français, enfants de colons qui sont dans les colonies, et puis ceux que l'on appelle à l'époque les indigènes. Dans les archives, on parle d'étudiants coloniaux sans faire forcément la différence.
D'une manière synthétique, à quel moment commence ce mouvement de gens qui veulent venir étudier ici, j'allais dire dans le royaume de France, puisque ça, je
te disais
tout à l'heure que ça commence à se faire.
Alors en fait, dès le Moyen-Âge, il y a des migrations étudiantes qui continuent à l'époque moderne. Donc tout au long du 16e, 17e, 18e siècle, il y a de grands mouvements partout en Europe, en particulier à cause des discriminations religieuses, c'est-à-dire par exemple les catholiques persécutés dans les pays protestants vont étudier dans les universités catholiques, par exemple à Toulouse, et inversement, les protestants français en Suisse, par exemple, ou dans les pays protestants. Pour la période contemporaine, c'est-à-dire après la Révolution française, ces migrations étudiantes continuent. On a des étudiants étrangers à Toulouse, en particulier dans les années 1830-1860, les étudiants polonais, victimes de la répression russe. Mais l'explosion des effectifs, c'est juste avant la Première Guerre mondiale, en 1909, et le pic sera atteint juste avant la crise des années 1930, où là, on a 26% des étudiants de la ville à Toulouse dans les quatre facultés qui sont des étudiants étrangers. Et ensuite, avec la crise des années 30, ça va diminuer. Après, on va tomber à des pourcentages autour de 10%.
Pour revenir un peu sur les origines, ce sont donc des flux migratoires, j'allais dire,
oui,
qui sont induits par des raisons extra-universitaires.
Les raisons principales, elles sont multiples. Un des facteurs très importante de la mobilité académique, c'est qu'il y a plein de pays qui sont en pleine expansion et qui n'ont pas assez d'universités. Donc, ils sont obligés, pour former leurs élites, de les envoyer à l'étranger. C'est le cas de tous les pays d'Europe centrale et orientale. Il y a des endroits où il n'y a tout simplement pas d'université. Ça, c'est le premier facteur. Dont profite donc la France, mais l'Allemagne, la Suisse, la Belgique et Toulouse aussi. Il faut aussi parler des discriminations en Europe qui amènent beaucoup d'étudiants à venir étudier à Toulouse. Alors il y a trois types de discriminations. Les discriminations religieuses qui s'appliquent en particulier, mais pas exclusivement, aux étudiants juifs, puisque en particulier dans l'Empire russe, en 1886, il y a un numerus clausus qui interdit à chaque université d'accueillir plus de 3% d'étudiants juifs. Et donc, tous ces étudiants viennent en Europe, et donc en particulier en France. Cet antisémitisme se répand dans toute l'Europe centrale et orientale, et donc beaucoup d'étudiants juifs viennent en France, qui dès le début du XIXe siècle a reconnu les juifs comme des citoyens à part entière. C'est le fameux article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que nul ne sera plus persécuté pour ses opinions religieuses. À partir de ce moment-là, un juif est un citoyen comme un autre. Il n'est plus nécessaire d'être catholique pour être un citoyen de plein droit. Donc il n'y a pas de discrimination. En France, ça attire donc beaucoup d'étudiants juifs. Deuxième type de discrimination, ça concerne les femmes, qui dans beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale n'ont pas accès à l'université. C'est comme ça que la France a récupéré Marie Curie. Donc il y a beaucoup d'étudiantes étrangères qui viennent étudier en France. Et dans beaucoup de pays, les premières étudiantes sont des étudiantes étrangères.
Qui est là ?
C'est moi.
Entrez.
Maria.
Vous êtes majeure, personne ne peut nous obliger à nous cacher.
Ils me déshériteront.
Et nous irons à Paris. Là-bas, il y a ma sœur, nous étudierons ensemble. Nous trouverons des leçons à donner, des travaux à faire. Eh bien.
Vous rêvez, Maria.
Il suffit de vouloir.
Et puis, troisième type de discrimination, les discriminations politiques. Donc, avant la Première Guerre mondiale, Toulouse, par exemple, a une forte communauté d'étudiants russes, qui souvent donc, sont juifs et socialistes. Et une fois qu'il y a la Révolution russe, beaucoup retournent. Et donc, après, ce ne sont plus les mêmes Russes qui sont à Toulouse, ce sont les Russes blancs, c'est-à-dire ceux qui s'opposent au régime communiste qui s'est mis en place. Alors, un coup, ce sont les Égyptiens qui militent pour l'indépendance de l'Égypte, colonie britannique. Un coup, ce sont les nationalistes chinois, dans les années 20, début des années 30, à Toulouse. Voilà. Alors, on retrouve tous ces groupes d'étudiants fondent des associations qui sont théoriquement des associations d'entraide et qui sont en réalité des associations où il y a du militantisme politique. Ça vaut aussi d'ailleurs pour les coloniaux français. Je pense en particulier aux étudiants indo-chinois qui réfléchissent et qui préparent l'indépendance future de la NAM.
Voilà. On est toujours au début du XXe, là.
On est pendant l'entre-deux-guerres, là. Pendant l'entre-deux-guerres, il n'y a pas beaucoup d'étudiants coloniaux numériquement. En revanche, ils sont actifs politiquement. Donc il y a les Indochinois et puis il y a ceux des colonies françaises d'Afrique du Nord. Il y a les Syriens aussi, puisque après la Première Guerre mondiale, la Syrie et le Liban sont sous mandat français. Voilà.
En termes de chiffres, au niveau des années 1910 jusqu'à la crise de 1929, un rapport de 1 sur 3 est français.
En 1928-1929, il y a 26% d'étudiants étrangers à Toulouse. Surtout présents à la faculté des sciences de Toulouse, très très présents dans ce que l'on appelle les instituts techniques. Les instituts techniques, ce sont les ancêtres des grandes écoles d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'ENSET, l'ENSIASET pour la chimie et l'ENSAT pour l'agriculture agronomie. Fondés avant la Première Guerre mondiale, ils installent à Toulouse la science appliquée. Le problème, c'est qu'au début, les Français boudent un peu ces instituts techniques parce que les Français préfèrent aller à l'école polytechnique créée pendant la Révolution, l'école des mines et l'école des ponts créée au XVIIIe siècle. Donc, pour durer, exister, commencer à faire ses preuves, ces instituts techniques font appel à la clientèle étrangère, et donc dans des proportions considérables. À l'Institut électrotechnique de Toulouse, par exemple, en 1909-1910, donc juste après la création de l'Institut, il y a 47% des étudiants de l'Institut qui sont des étudiants étrangers. En 1914, leur part atteint 75%. Et petit à petit, le pourcentage va baisser au fur et à mesure que les Français vont s'intéresser à cet institut électrotechnique. Pour les autres instituts, c'est exactement la même chose. L'Institut de chimie compte encore 75% d'étudiants étrangers en 1926 et encore 59% en 1934. Et pour l'Institut agricole, eh bien, en 1912, les étudiants étrangers représentent 70% des effectifs et ils sont encore 31% en 1923. Alors pour résumer, on pourrait dire que sans les étudiants étrangers, ces instituts n'auraient pas eu le temps de faire leurs preuves. Ils auraient dû fermer faute d'étudiants.
1920-1928, automobiles, gratte-ciel, téléphone, électricité font croire à l'Amérique qu'elle est entrée dans l'ère de l'abondance.
Which side are you on?
subitement en octobre 29, la Grande Dépression commence. Ceux qui avaient acheté des actions à terme doivent vendre tout ce qu'ils possèdent. Un quart des banques du pays doivent fermer leurs portes. 76 000 entreprises déposent leur bilan. Les produits de la société de consommation ne trouvent plus d'acheteurs. Henry Ford licencie les trois...
Donc c'est le crash boursier de 29.
Alors voilà. Alors,
c'est une raison ou c'est juste...
Oui, c'est une raison importante. Alors la crise, évidemment, commence en 1929 aux États-Unis. Elle met 3 ans à faire le tour du monde, à peu près. Donc elle arrive en France un petit peu plus tard. Et effectivement, ça fait baisser considérablement les effectifs. Autre élément, eh bien, l'ambiance générale a changé à l'égard des étudiants étrangers. Il y avait jusqu'à la crise des années 30 une politique tout à fait volontariste de l'État français pour faire venir les étudiants étrangers, c'est-à-dire qu'ils étaient utilisés par la France pour exporter son modèle. C'était un outil du rayonnement français à l'étranger. C'était une façon aussi de récupérer les élites. Avec la crise et les tensions sur le marché du travail, eh bien, l'ambiance va devenir beaucoup moins accueillante pour les étudiants étrangers, de la part de certains professeurs quand même, mais aussi surtout des étudiants français qui se mobilisent pour faire voter des lois qui limitent l'insertion des étrangers sur le marché de l'emploi français. Donc il y a vraiment une tension dans ces années-là qui va évidemment connaître son point culminant avec l'instauration dans les universités françaises du numerus clausus à l'égard des étudiants juifs français, mais également les étudiants juifs étrangers qui étaient, comme je le disais tout à l'heure, très nombreux
à
Toulouse, 1941. Voilà.
Donc on arrive à la fin de la guerre.
Alors pendant la guerre, évidemment, tout est particulier. Hein, c'est un temps suspendu. Il faut souligner quand même qu'un certain nombre d'étudiants étrangers participent au réseau de résistance. Certains d'ailleurs avaient participé aux brigades internationales pendant la guerre d'Espagne et donc se battent contre l'occupant. Alors, soit des étudiants, soit de jeunes diplômés, qui est particulièrement connu à Toulouse, c'est le docteur Barsoni, qui était roumain. On peut citer aussi les étudiants polonais, qui sont nombreux à Toulouse. Je pense en particulier à Leonard Rudowski, qui s'implique dans les réseaux de résistance. Il y en a d'autres, on ne peut pas tous les citer ici. Voilà. Et puis après-guerre, alors là on change d'époque. Avant-guerre, donc je l'ai dit tout à l'heure, les gros bataillons avant la Première Guerre mondiale, ce sont des étudiants russes. Après la Première Guerre mondiale, les nationalités les plus représentées, ce sont des étudiants originaires d'Europe centrale et orientale, beaucoup de Roumains, de Bulgares, de Tchécoslovaques, par exemple. Et après la Seconde Guerre mondiale, on change d'époque, les flux d'étudiants étrangers concernent de plus en plus les étudiants originaires de ce qu'on appelle alors l'Union française, c'est-à-dire, dans un premier temps, les colonies françaises, et puis après les anciennes colonies françaises qui sont de plus en plus pourvoyeuses d'étudiants non plus coloniaux, mais au fur et à mesure des décolonisations, d'étudiants étrangers pour Toulouse.
Aux portes de Toulouse, une ville nouvelle est née. Une ville dont les occupants sont des étudiants, des professeurs, des chercheurs. Une vraie ville, comme on peut s'en convaincre dès l'entrée. L'ensemble de Toulouse-Rangueil est l'amorce de la plus grande cité scientifique d'Europe.
Au-delà du vieux canal. Globalement, jusqu'à la crise des années 30, il n'y a pas tellement de problèmes. C'est surtout avec cette crise des années 30 qu'il y a des critiques contre les étrangers, mais ça n'a rien de spécifique aux étudiants. Alors après, il y a différents types d'accueil, c'est-à-dire dans les témoignages des étudiants, ils vont dire que, par exemple, qu'ils ont de très bonnes relations avec leurs enseignants. D'autres témoignages, ce dont se plaignent les étudiants, c'est d'avoir du mal à rentrer dans les familles françaises. Mais pour d'autres nationalités, il n'y a pas ce problème-là. Alors, par exemple, en 1919, Toulouse accueille les soldats américains débarqués en France. Et leurs professeurs américains décident que tant qu'à être en France, autant qu'ils en profitent pour aller étudier. Donc Toulouse reçoit énormément de soldats américains. Plus de 1200, ce qui est considérable étant donné les effectifs de l'époque.
Des hommes.
Des hommes. des étudiants soldats qui viennent étudier dans toutes les facultés toulousaines. Pendant 4 mois, on met en place pour eux tout un programme spécifique. Et alors, eux n'ont absolument aucun problème pour entrer dans les familles françaises. Voilà. Alors, c'est un mouvement qui concerne toute la France, hein, mais Toulouse a été très très importante dans l'accueil de ces étudiants soldats américains en 1919.
Pour conclure sur ce point, on pourrait dire donc que les gens d'ici considèrent l'étudiant en fonction de ce qu'il représente dans leur subconscient.
Oui, bah c'est classique. En même temps, il y a eu des vraies politiques de la ville, du monde universitaire, pour aller les chercher, ces étudiants étrangers. Je pense en particulier à la création en 1893 d'un comité de patronage des étudiants étrangers et coloniaux qui avait pour mission de faire la promotion du site toulousain à l'étranger. Et puis, en même temps, d'être une structure d'accueil. Donc, le monde universitaire était impliqué, mais également des personnalités de la ville. Je pense en particulier au célèbre éditeur Édouard Privin. Ozène aussi était impliqué. Donc, il y a vraiment une politique active, de la même manière que très rapidement, je vous disais tout à l'heure, 1909, les effectifs augmentent. La mairie réagit tout de suite en créant des cours de français langues étrangères. Et en 1921, la faculté des lettres va créer un institut normal d'études françaises qui est tout simplement l'ancêtre du département français langues étrangères de l'université du Mirail, de FLE, et qui est essentiel pour l'accueil des étudiants étrangers. Et donc il y a vraiment une action de la ville, des facultés, de tous les partenaires pour faire venir les étudiants étrangers. Alors avec des hauts et des bas selon les périodes, parce que bien sûr, l'université toulousaine n'est pas en dehors des soubresauts de l'histoire.
Le propre de l'étudiant, c'est qu'à un moment, il ne le sera plus.
Oui.
Du coup, ces étudiants, qu'est-ce qu'ils font après ?
Alors, beaucoup repartent dans leur pays. Il y en a beaucoup qui restent aussi, et qui vont donc demander leur naturalisation. Et l'étude des dossiers de naturalisation est très intéressante, puisqu'on se rend compte qu'en fait, la France récupère beaucoup des diplômés qu'elle a formés. Par exemple, on va sur un dossier de naturalisation, y compris pendant donc, ces années difficiles des années 30, eh bien, dire ben, on va attendre que cet étudiant ait obtenu son diplôme pour le naturaliser. Donc beaucoup restent là, et en particulier tous ceux qui souffrent de discrimination dans leur pays, et en particulier des étudiants juifs. Donc ils sont naturalisés de façon assez importante hein, pendant l'entre-deux-guerres et même pendant les années 30. Alors il y a aussi le cas des étudiants qui continuent leur migration. Je pense en particulier à des étudiants nés dans l'Empire russe ou dans des pays d'Europe centrale et orientale où les Juifs sont discriminés, qui font une étape de formation à Toulouse et qui se dirigent ensuite dans ce que l'on appelle à l'époque la Palestine, puisque vous savez que l'idée d'un État juif est très ancienne, hein, elle date de la fin du 19e siècle, et donc il faut préparer ce futur État juif et donc former les futures élites. Donc c'est ce que font beaucoup d'étudiants à Toulouse ou ailleurs, c'est-à-dire qu'ils font une étape de formation et puis ils continuent ensuite leur migration pour rejoindre la Palestine ou alors d'ailleurs d'autres pays. Hein. La Palestine n'est pas la seule destination des étudiants juifs.
Là, vraiment, pour conclure, si on devait réfléchir en termes de gains, on peut dire que tous ces courants, tous ces gens qui viennent étudier ici, qui restent ou qui s'en vont, finalement, sont...
Ils sont très importants, ils sont très importants pour la vie universitaire toulousaine. On a dit tout à l'heure que pour les instituts techniques, ils n'auraient pas pu survivre sans la clientèle étrangère. Ça permet aussi, puisque le critère de l'internationalisation d'une université est très important, donc ça permet aux étudiants français d'être en contact avec le reste du monde. C'est utile pour la France pour exporter son modèle, puisque les étudiants étrangers permettent d'exporter le modèle français, puisque quand on forme un étudiant, on le forme à la française. Et pendant l'entre-deux-guerres, il y a des concurrences entre les États dominants européens, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, et puis après de plus en plus les États-Unis, pour chacun avoir un impact sur les esprits de ces étudiants qui partiront après dans le monde et qui porteront ailleurs une part de la culture française.
Les livres étrangers, vous trouverez encore longtemps, et sans doute de plus en plus souvent, des expressions en français, car notre langue n'est pas en train de mourir. Tout au contraire, elle est en pleine expansion. Nous vous en apportons la preuve. De tous les pays du monde, des milliers de jeunes gens viennent apprendre notre langue. L'ambassadeur numéro un de notre culture. Les 350 000 étudiants étrangers qui sont devenus eux aussi nos ambassadeurs répondent à nos questions.
Prise de son, interview, réalisation, François Berchenko.